10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Une heure pour parler d'islam, c'est le vendredi sur Beurre FM, entre 10h et 11h avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi d'être avec toi ce matin, pour ce beau vendredi, Inch'Allah. Il ne fait pas très beau, mais...
Ouais, manqué.
Alhamdoulilah, comment ça a manqué ?
Vous m'avez manqué.
Oui, c'est partagé, comme d'habitude, Philippe.
Comme on a enregistré ce soir tard, j'ai l'impression de ne pas vous avoir écouté, d'avoir dormi avec vous, tiens.
Ah bon ?
Ouais, c'est pour vous dire.
Tu m'as manqué toute la nuit.
Vous avez ronflé toute la nuit. Bon.
Exact, c'est vrai.
Imam Abdelali, on va démarrer par le verset du jour. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que tout à l'heure, vous allez revenir sur des propos que vous avez tenus sur la chaîne Canal+, et qui ont posé beaucoup, beaucoup de questions, voire plus si affinités. Donc ça sera tout à l'heure. On commence par le verset du jour, Imam Abdelali.
Alors le verset que je citerai, je vais d'abord le réciter. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم حين ينزل تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. Ô vous les croyants, ne posez pas de questions sur certaines choses qui peuvent vous décevoir. Et que si vous interrogez, vous vous posez la question au moment où est-ce que le verset du Coran descend, il vous en fera part, Dieu vous en fera part de sa, de la réponse. Il vous fera part de la réponse. Il dit ensuite, Dieu a voulu pour certaines questions vous épargner du tort de la réponse qui vous serait tenue. Et Dieu est pardonneur et tolérant et magnanime. Dans ce verset, Philippe, beaucoup de savants se sont penchés pour essayer de comprendre la cause, ce pourquoi Dieu a révélé ce verset. On découvre que certaines versions qui sont dans le Bukhari, qui sont dans d'autres ouvrages des causes de la révélation rapportées par nos traditionnistes traditionnels, c'est-à-dire le Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah, qui sont nos références en matière de tradition prophétique, nous font part de certains individus qui se moquaient du prophète en le faisant passer pour un devin qui avait réponse à tout. Et il venait lui dire, oh Mohamed, où est j'ai perdu ma chamelle, elle est où ma chamelle? Ou un autre venait le voir et lui dit, qui est mon père? Puisque tu prétends être un prophète, qui est mon père? Donc ils étaient dans une démarche de provocation, stifzaz, comme on dit en arabe, et une démarche de moquerie. Donc pour justement montrer que le prophète, soi-disant, était un charlatan. Et bien entendu, Allah Azza wa Jalla est venu pour leur dire, mais arrêtez de poser des questions stupides, c'est complètement absurde que d'interpeller le prophète pour lui poser des questions qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi il a été envoyé, c'est-à-dire le message d'Allah Azza wa Jalla. Donc s'il a des questions à répondre, c'est sur ce qui va être en relation avec ce pourquoi il a été révélé, ce pourquoi il a été envoyé comme messager de Dieu. Moi je pense aussi qu'il faut élargir la compréhension de ce verset de la manière suivante. C'est que tout simplement notre religion, Philippe, ce n'est pas une religion qui gère tous les aspects de notre vie. Et qu'il existe un certain nombre de points, de questions dans lesquels Allah Azza wa Jalla ne se prononce pas. Et ceci est confirmé encore une fois par la tradition du prophète quand il dit alayhi salatu wassalam, ne m'accablez pas de questions, ne me bombardez pas de questions, car vos prédécesseurs avant vous ont péri du fait de poser trop de questions à leurs prophètes. Innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, et d'être en désaccord avec leurs prophètes. Et donc le qu'est-ce que nous dit cette parole du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il existe une marge de gestion qui est propre à l'homme en tant que le successeur, en tant que lieutenant, en tant que vicaire de Dieu sur terre, et que c'est à sa raison d'agir pour justement se prononcer et de réfléchir pour trouver des solutions à comment gérer sa vie. Il y a énormément de sujets qui sont extrêmement sensibles dans la société, dont Allah Azzawajal ne sait pas prononcer, il n'y a pas d'argument ni prophétique ni coranique en la matière. Je citerai par exemple la gouvernance. La manière de désigner la gouvernance, il n'y a aucun texte là-dessus sur est-ce que le monde musulman ou ceux qui sont membres de la Oumma des croyants doivent être dirigés par un régime républicain, royaliste, sultanat, je sais pas moi, dictatorial, etc. Il n'y a pas de texte en la matière qui définit la manière comment doit être désignée la gouvernance. Par contre, il y a des textes qui disent que celui qui, à qui Dieu a confié cette gouvernance, il doit la faire avec justesse, avec justice, avec équité, avec avec sagesse, etc. Comme il l'a exigé, par exemple, du prophète David, qui était un roi, et à la fois roi et prophète. Donc, dire que la royauté, par exemple, et le système monarchique est incompatible avec l'islam serait donc une atteinte à la manière comment Sayyidina Daoud a décidé de gérer sa nation et son royaume en tant que roi. Et son fils Salomon, Suleyman, alayhi assalam, était donc des rois à qui Dieu a confié, mais qui en même temps Dieu n'a cessé d'exhorter dans le Coran de diriger et de gouverner avec justice et équité. Il dit Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ô David, nous avons fait de toi notre vicaire sur terre. Fala tattabi' al-hawa, ne suis pas tes passions. Fayudillaka 'an sabilillah, tu seras égaré du chemin de Dieu. Innal ladhina yadhilluna 'an sabilillah, ceux qui sont égarés du chemin de Dieu, lahum 'adhabun shadidun bima nasu yawm al-hisab, ils auront un châtiment douloureux pour ce qu'ils auront négligé du fait qu'ils vont être examinés de ce pourquoi ils ont été à qui on a confié ce pouvoir. Donc, si tu veux, ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe un ensemble, un ensemble de choses qui relèvent de notre vie, dont Allah Azza wa Jal ne s'est pas prononcé.
D'accord. Alors là, on a la gouvernance, mais
il y en a plein d'autres.
Plus quotidien.
Plus quotidien. Eh bien, justement, c'est le sujet que nous allons aborder tout à l'heure sur le fait que Allah Azza wa Jal nous a pas imposé une manière de nous habiller, par exemple. Il n'y a pas une norme spécifique sur comment doit-on nous habiller. Et qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit simplement que le musulman, comme la musulmane, doit avoir une tenue vestimentaire respectable et respectueuse des personnes qu'elle côtoie à l'extérieur de chez elle. En l'occurrence, elle doit être habillée décemment et ne doit pas être dans une démarche, je parle pour la femme, d'adicher ou de convoiter, de charmer les personnes autour d'elle, et qu'elle doit donc de ce fait cacher ses parures, elle doit cacher sa beauté et la réserver fidèlement que seulement à son partenaire à qui elle s'est engagée par un acte de mariage. Donc Allah Azza wa Jal, dans ce verset là il nous parle de cette tenue générale vestimentaire décente que la femme doit avoir, par exemple, mais il ne précise pas si on doit porter du vert, du bleu, du noir. Il ne dit pas si on doit porter une telle robe de telle confection, etc. Il laisse la largesse, tout un ensemble de choses qui relèvent de la vie. Par exemple, le code de la route, Philippe. La priorité à droite et pas la priorité à gauche, ou s'arrêter un stop, ou ne pas dépasser une ligne blanche, etc., sont des choses qui ont été inventées et innovées par l'homme dans l'intérêt de tous. Et on appelle cela à ce moment-là al-masalih al-mursala, c'est l'intérêt général qui légifère ce genre de règles, de lois, et c'est à l'homme d'en décider l'utilité ou non à tel ou tel moment, par rapport à l'utilisation de tel ou tel instrument que l'homme lui aussi est à l'origine de leur invention et de leur créativité. Les avions, pareil, font l'objet d'un aiguillage du ciel. Ils sont obligés de suivre les instructions qu'ils sont données par les aiguilleurs, etc. Ils respectent tout cela afin d'éviter des catastrophes, afin d'éviter des accidents, etc. Tout cela, c'est à l'homme de décider comment gérer sa société. Il y a plein d'autres règles, par exemple tout le code administratif. Il y a énormément, en tout cas, le code de procédure judiciaire. Tout cela ne sont pas des lois qui ont été légiférées, que l'on retrouve ni dans le Coran ni dans la Sunna, mais que l'homme a jugé utile de mettre en place afin justement de respecter l'esprit de la révélation qui est l'équité, la sagesse et la justice. Et j'en passe et des meilleurs. Il y a énormément de choses. Quand justement le prophète alayhi salat wa salam a été interpellé par rapport au pèlerinage, est-ce que l'on doit le faire tous les ans, ya Rasulallah? Alors imagine, Philippe, si 1,5 milliard, 600 millions de musulmans dans le monde devaient aller tous à la Mecque tous les ans, tu te rends compte la situation catastrophique? Ça serait un véritable carnage que l'on retrouverait, puisque on serait dans l'incapacité de réunir tout le monde. Et donc le prophète alayhi salam, qui n'a pas répondu à la question de celui qui l'a interpellé en lui disant awa kull aam ya rasulallah, devons-nous y aller tous les ans, le prophète s'est tu, il n'a pas répondu, il n'a pas dit non, il a dit il s'est tu. C'est-à-dire qu'en gros il nous apprend à dire arrêtez de poser trop de questions. Il y a même une sourate qui porte le nom de la plus grande sourate du Coran, sourate al-Baqara, qui a été justement choisi comme sourate al-Baqara pour justement mettre en garde les hommes et les humains, c'est-à-dire de ne pas trop poser de questions sur les futilités, sur les détails de notre vie, car Dieu, comme il le dit, a laissé une marge. Il dit dans le Coran, dans le verset que je viens de citer, « Afallahu anha », Dieu vous a épargné des détails pour justement vous donner cette liberté, cette largesse, cette souplesse de vivre votre vie comme bon vous semble, à partir du moment où vous n'êtes pas dans une démarche de faire du tort ou de nuire aux autres. Afallahu anha, wallahu ghafurun halim. Dieu est pardonneur et tolérant et magnanime. Il est en train de nous dire qu'il n'est pas un dictateur, il n'est pas un tyran qui dit voilà, marchez au pas, je veux que chaque geste de votre vie soit géré par Allah Azza wa Jalla et son prophète. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Tout simplement que nous devons avoir l'art de questionner, mais aussi ces savants doivent aussi avoir l'art de répondre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on entend l'imam Malik répondre à des dizaines de questions, il dit à chaque fois « Allahu a'lam, je ne sais pas, Dieu seul sait », c'est l'art de répondre justement de la même manière que le prophète le faisait quand on disait « mais arrêtez de poser ». En gros, il est en train, le message est « arrêtez de poser trop de questions ». Il y a des choses dans votre vie qui ne relèvent pas des lois musulmanes. Moi, par exemple, je suis constamment interpellé, notamment pour la plupart des gens qui m'interpellent par téléphone, Philippe, sont les gens qui me posent des questions sur leurs problèmes conjugaux. Et ils me disent, voilà, sentimentalement, moi ceci, comment je dois faire? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Je dis, mais arrêtez! Depuis quand Dieu se mêle de vos affaires sentimentales? Pourquoi Dieu aurait le droit de s'ingérer dans vos sentiments, dans vos émotions, et qu'il y aurait une loi, une règle pour qui devrait s'appliquer pour tout le monde, alors que nous sommes justement face à une société qui n'est pas robotisée, uniformisée, modélisée. Nous sommes face à une multitude de caractères, de tempéraments, d'états d'humeur, d'états d'esprit, qui fait de l'homme justement la beauté de la diversité de l'homme, c'est-à-dire avec un grand H, je parle de l'homme et de la femme, qui fait que il n'y a pas une règle qui va s'appliquer pour tout le monde, mais qu'à chacun de savoir comment chercher son bonheur dans ce bas monde, tout en recherchant être soucieux de plaire à Allah Azza wa Jal, et en aucun cas à attiser son courroux et sa colère. Et que finalement, il y a un certain nombre de choses qui sont certes, bien sûr, légiférées dans le Coran et dans la Sunna, et qui vont dans l'esprit d'être juste et de ne pas être injuste, et qui finalement, pour le reste, faites ce que vous voulez, faites ce que bon vous semble. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce verset qui me semblait pertinent pour introduire la question qui a été abordée lors de mon intervention à la télévision. Et bien sûr, on en parlera, si tu le veux bien, après.
Voilà, une émission sur Canal+, l'info du vrai. Donc c'était le 11 novembre dernier. On va réécouter l'extrait qui a fait polémique, Imam Abdelali Mamoun, et vous nous expliquez tout à l'heure ce que vous avez voulu dire par là. Il y aura une partie où les auditeurs sont bien sûr invités à vous poser des questions au 01 53 48 3000. C'est l'islam au présent sur Beurre FM jusqu'à 11h.
L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, chaque vendredi, hein, 11h, jusqu'à 11h, on parle d'islam sur Beurre FM. Vous parliez tout à l'heure, Imam Abdelali, de l'art de poser des questions et finalement les questions qui n'ont pas de réponse. Alors quelles sont-elles ces questions ?
Eh bien, d'abord, il faut comprendre ce que l'on... quand on parle de répondre à une question, c'est-à-dire, là, je m'adresse, bien entendu, à tous ces cadres musulmans qui répondent et donnent des avis, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français des fatwas. Des fatwas, des avis religieux à des questions qui relèvent de leur pratique religieuse. Et quand on parle de fatwas, on est forcément obligé de se soumettre à l'une des définitions qu'on appelle les statuts normatifs. Tout est soit obligatoire, soit recommandé, soit indifférent légal, soit déconseillé, soit interdit. Voilà, c'est ce qu'on appelle ahkam al-khamsa, les cinq statuts normatifs que le mufti doit prononcer à la fin de la réponse, à la fin de la réponse ou au début de la réponse d'une question dans laquelle il est interpellé et dont l'islam s'est bien entendu prononcé. Mais la question que je pose, c'est est-ce que à toutes les questions, il y a forcément une réponse normative ? Eh bien, la réponse est non. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a parfois des choses qui relèvent de la vie de tout un chacun et dont même le mufti n'a pas à se prononcer. Il n'a pas à avoir cette jura, cette audace de vouloir à chaque fois se mêler de tout et de rien dans la vie des musulmans, de ceux qui ont choisi l'islam comme religion. Et donc, puisque tout n'est pas normalisé, c'est tout simplement parce qu'il y a l'absence de texte. Le Coran lui-même, il le dit. Afallahu anha, Dieu sait, vous a épargné de répondre à ce genre de questions pour vous donner cette largesse, cette souplesse que chacun gère sa vie comme bon lui semble. Et donc, puisqu'il n'y a pas de texte, il ne peut pas y avoir de normes, il ne peut pas y avoir d'avis religieux. On ne peut pas dire que quelque chose est obligatoire ou quelque chose est interdit ou quelque chose est recommandé. Il y a simplement parfois une position qui relève de ce qu'on appelle hukm al-taqwa, le préférable, le statut comportemental, le statut spirituel, de ce qui est préférable de faire dans la vie et de tout un chacun, et qui va donc contribuer à son bonheur dans le monde d'ici-bas et dans l'au-delà. Mais on ne peut pas parler de statut normatif s'il n'y a pas derrière le respect de la définition de cette norme. Je m'explique, Philippe. Quand je dis quelque chose est obligatoire, fard, les ulama définissent ce que c'est que le fard. Il dit huwa ma yuthabu ala fi'lihi, c'est ce qui est récompensé si on le fait, wa yu'aqabu ala tarkihi, et ce qui fait l'objet d'une punition si on le délaisse. Et donc, moi par exemple, quand j'entends un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui me dit وَعْفُ الْلِحَا وَحَفُ الشَّارِبُ, délaissez vos barbes et taillez vos moustaches. C'est, il y a même 22, d'après 22 riwayas, 22 versions, 22 hadiths avec leur chaîne rapporteuse qui répètent à peu près cette même formule. Est-ce que j'en conclus que donc c'est obligatoire pour moi de délaisser ma barbe et que si je coupe, je taille ma barbe, je suis voué à l'enfer et que je suis ceci, cela? Eh bien moi, j'interroge ces savants qui disent que c'est obligatoire. Où est la punition? Où est la sanction divine qui sanctionne le fait de ne pas respecter cette recommandation prophétique? J'en donne un autre exemple encore plus évident. Dans le verset le plus grand du Coran, qui est dans la sourate la plus grande du Coran, qui est qu'on appelle le verset de la dette, dans lequel Dieu dit, ô vous les croyants, si vous contractez une dette, écrivez-le. C'est-à-dire, il faut l'écrire et le faire signer par des témoins, etc. Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh, écrivez-le. C'est un verbe à l'impératif, donc qui normalement doit être compris comme étant une obligation. Mais on sait que le prophète a contracté énormément de dettes lui-même, et ses compagnons l'ont fait, et n'ont jamais écrit, et n'ont jamais rédigé le contrat de dette. Donc est-ce que ça veut dire qu'ils ont désobéi à Dieu? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont subir le courroux de Dieu parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu? C'est complètement absurde. Il existe, je le rappelle, un certain nombre de prescriptions qui relèvent d'autres définitions que le statut obligatoire. Il y a ce qui est recommandé, ce qui est indifférent légal. Par exemple, quand Dieu il dit « Wa idha halaltum fastadu », il donne à l'impératif l'obligation à tous ceux qui se désacralisent de pèlerinage d'aller chasser. Est-ce que vous avez vu, Philippe, après le pèlerinage, des gens prennent des fusils et des cannes à pêche et ils vont aller chasser ou pêcher à la mer ou dans la forêt ou dans le badia de Mecca al-Mukarrama? Bien sûr que non. Et pourtant, Dieu le dit, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا. Quand vous êtes désacralisé du pèlerinage, chassez. Eh bien, ça montre bien que toutes les injonctions coraniques ou prophétiques ne veulent pas forcément toujours dire que c'est obligatoire. Tout cela pour dire, Philippe, c'est que il existe donc des fatwas, des hukum fatwas, des statuts normatifs juridiques, et il y a des statuts normatifs comportementaux et spirituels qu'il ne faut pas mêler. Et donc, moi, quand je lis le Coran concernant toutes ces références prophétiques et coraniques qui parlent de les règles de bienséance vestimentaire de l'homme comme de la femme, et du comportement que doit avoir la femme notamment, eh bien, on constate qu'il s'agit bien entendu de versets qui relèvent de statuts normatifs comportementaux et non pas juridiques. Et donc, finalement, tout le monde, tous ces gens qui m'interpellent, qui m'ont interpellé depuis que je suis passé à la radio pour expliquer ce que j'ai dit à la radio, eh bien, je leur ai dit que tous, finalement, il n'existe pas de texte qui impose de manière normative et de manière juridique le statut de se voiler ou de se dévoiler.
Bien, alors, c'était pas à la radio, puisque c'était à la télévision.
Ouais,
c'était,
j'ai dit à la
sur
radio.
Canal+. Okay. Plus. Oui. Vous étiez invité par Yves Calvi dans l'émission L'Info du Vrai. On va écouter donc ce que vous avez dit sur ce plateau.
Le voile n'est jamais été un symbole ni un signe religieux. C'est une innovation, une bid'a, comme on dit, une innovation détestable et ostentatoire, puisque en islam, l'ostentation est un vice incompatible avec le cheminement spirituel.
Alors, déjà, pour que tous ceux qui nous écoutent, est-ce que ce qu'on vient d'entendre, c'est ce que vous avez dit?
Oui, ben bien sûr, parce qu'on l'entend là.
Forcément,
c'est ce que j'ai voulu dire.
Non, c'est pas ça. Parce que aujourd'hui, on peut faire des montages. Donc, oui. au moins, vous reconnaissez que ce qu'on entend là, c'est bien ce que vous avez dit dans son intégralité, que ça n'a pas été monté.
Il n'y a pas, sur ce que l'on vient d'entendre, montage.
Il n'y a pas eu de point de montage.
Non, voilà. Alors,
ça, c'est important.
Je voudrais qu'on comprenne exactement ce que j'ai dit. Je ne parle pas de dire que le voile en lui-même est une innovation détestable. Ce n'est pas le voile qui est une innovation, c'est la fonction qu'on lui donne. La fonction d'être un signe religieux. Il n'existe pas dans nos références religieuses la volonté de Dieu de dire aux femmes « portez un voile pour qu'on sache que vous êtes musulmane ». Ça, je ne le trouve nulle part. Et je mets à défi n'importe qui. Même les imams qui m'ont interpellé m'ont confirmé qu'effectivement, le sens du verset dans Surat Al-Ahzab, Surat les Coalisés, où Dieu explique pourquoi il demande aux femmes de baisser leurs vêtements, leur jilbab, leur jalabi bihinna, il dit « ذَلِكَ أَدْنَا أَنْ يُعَرَفْنَا فَلَا يُؤْذَيْنَ » Ceci afin qu'elles soient reconnues et qu'on ne les offense pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire reconnu ici? Est-ce que reconnu veut dire reconnu musulmane? Bah, forcément non, puisque tous les gens de Médine, dans le contexte où a été révélé ce verset, étaient déjà tous des musulmans. Donc ça n'était pas pour les démarquer des non-musulmans que Dieu a demandé aux femmes de baisser leur robe, leur jilbab jusqu'au bas du corps. Mais il leur a demandé de porter des robes longues pour justement ne pas être offensés et que ceux qui convoitaient, qui étaient dans une démarche malsaine, ces obsédés, ces personnes qui étaient dans une démarche de drague et de vouloir convoiter ces femmes-là, eh bien comprennent que ces femmes-là ne sont pas ne sont pas à leur disposition et ne sont pas là pour assouvir leurs excitations et leurs besoins sexuels, mais qu'elles sont réservées à leur conjoint et que celui qui veut combler ce besoin qui est humain, certes, il est humain, tous les hommes qui ont un minimum, on va dire, qui sont constitués normalement, ont ce besoin affectif et sexuel de combler et donc que Dieu a régulé par le mariage. Donc ce que j'ai voulu dire, Philippe, dans ce qu'il s'agit de la fonction du voile. Il n'y a pas en islam de voile islamique, c'est-à-dire il n'y a pas de voile qui a pour objet, quand on l'arbore, de signaler notre appartenance à la religion, mais une volonté pour la femme de signaler que c'est une femme réservée, que c'est une femme pudique et qui n'accepte pas qu'on la convoite, qu'on la drague, qu'on la laisse tranquille, purement et simplement. Donc, qu'on ne l'offense pas, qu'elle ne soit pas offensée.
Ça veut dire quoi pour les femmes qui n'ont pas de voile alors? qu'elles souhaitent qu'on les offense?
Non, c'est à l'intention. Moi, justement, dans le verset, il ne parle pas de voile dans ce verset-là. Il parle de jalabi bihinna. Il parle de vêtements longs. C'est-à-dire qu'à la femme qui porte un vêtement long signale à ces personnes malveillantes, à ces dragueurs ou à ces voyeurs, qu'elles ne sont pas, elles ne souhaitent pas être convoitées, ne souhaitent pas faire l'objet de convoitises. Et c'est le sens du verset suivant, quand Dieu dans le Coran dit La illam yantahil munafiqun, si les hypocrites n'arrêtent pas, walladhina fi qulubihim maradun, ainsi que ceux qui ont un cœur malade, c'est-à-dire qui sont imprégnés. Qui sont des sadiques, des obsédés sexuels, qui ont voilà constamment sont toujours en train de des coureurs de jupons, en train de chercher à chaque fois les jupons des dames, donc toujours en train d'essayer de draguer des filles. Eh bien, s'ils n'arrêtent pas, Dieu dit dans le Coran, ou al mujifoun fil Madina, ceux qui créent une instabilité dans la ville de Médine, la nourrienna kabihim, nous allons t'inciter contre eux, ya Mohammed. Nous allons en sorte qu'ils ne puissent jamais rester tes voisins, c'est-à-dire qu'ils vont être chassés de Médine. Donc, dans ce verset-là, Dieu nous montre bien qu'il s'agit bien de préserver la dignité de la femme, de préserver l'honneur de la femme, à travers le fait de baisser son jilbab. Moi, quand je pose une question à une personne, montre-moi un jilbab, jalabi bihin, pluriel de jilbab, je reprends le terme. Là, on traduit dans le Coran en français, grand voile, je suis désolé. C'est une trahison que de trahir le mot jilbab par voile. Un jilbab, c'est un manteau, c'est une robe que la femme porte et avec laquelle elle va cacher son corps et elle va cacher jusqu'à sa cheville, comme le demande Allah Azza wa Jalla, de baisser, de rabattre. Yudnina alayhina idna, ça veut dire isbel, isbel, l'arabia, qui veut dire rabaisser, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas porter des jupes courtes ou des jupes qui laissent apparaître le bas de leur corps, c'est-à-dire leur mollet ou leur cuisse. Hein, elle doit cacher leurs jambes, etc. Alors, si on va même plus... Oui, mais tu contredis le consensus. Alors, écoutez, vous aussi, je dis bien à ce moment-là, vous aussi, je vous accuse de contredire le consensus. Parce que qu'est-ce que dit le consensus, justement? Il dit ce consensus quand on lit les tafsirs qui ont été écrits par les ulama, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, Al-Tabari, que là, concernant le terme « ذَلِكَ أَدْنَا أَنْ يُعَرَفْنَا » ceci afin qu'elle soit reconnue, eh bien, ils disent, eux, les savants de l'époque, c'est pour reconnaître et distinguer les esclaves des femmes libres. Que finalement, ces exégètes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont en train de dire qu'il y a une différence entre la dignité d'une femme libre et il y a une différence entre la dignité d'une femme esclave. Et que la dignité d'une femme esclave est moins importante, est moins noble, est moins à respecter, que finalement ces voyeurs, s'ils veulent regarder les femmes esclaves, c'est pas grave, mais par contre, ils ne doivent pas regarder les femmes libres. Je trouve ça, pour moi, faux. Je trouve ça complètement aberrant que de pouvoir accepter ce genre d'interprétation qui, je le rappelle, est un consensus de tous les exégètes, les mufassirines qui ont traduit. Et quand même, si c'était vrai qu'effectivement il y avait ce contexte où le prophète a voulu distinguer les nobles femmes, hein, libres, etc., qui doivent porter des robes longues, des femmes esclaves, eh bien, je considère que, puisque Allah Azza wa Jalla n'a pas fait cette distinction dans le Coran entre esclaves et femmes libres, eh bien, j'en déduis que Dieu qui s'adresse à tous les contextes et à toutes les réalités temporelles, eh bien, nous permette à nous de contredire cet avis consensuel et de dire que ce verset-là ne s'agit pas de distinguer, ne veut pas dire qu'il s'agit de distinguer les esclaves des femmes libres, mais de distinguer justement une femme qui souhaite signaler qu'on veut qu'on la laisse tranquille et qu'on ne l'offense pas. Et qu'elle soit libre ou esclave. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves. Toutes les femmes sont libres. Donc, à partir de là, toutes les femmes sont invitées, les musulmanes, à porter des robes longues, des vêtements longs qui couvrent leurs pieds et qui couvrent leurs jambes de manière à ne pas être offensées et ne pas être aduchées par des individus malveillants et autres. Comme le dit, hein, dans l'exégèse, il parlait de zounat, hein, le terme... dans l'exégèse, les termes des savants, ils parlent de fornicateurs, de gens qui étaient dans une démarche de vouloir convoiter des femmes afin de pratiquer la fornication. Donc on est bien dans le voyeurisme et dans la volonté de draguer, etc., etc.
Bon, là on en est sur 30 minutes d'explication. Est-ce que vraiment Imam Abdelali, sur des questions qui sont aussi sensibles que celles-là, qui sont le fruit d'une réflexion qui est nouvelle quand même, puisque je ne vous ai pas toujours entendu dire ça, ça fait quand même longtemps que je vous connais, mm-hmm. ça fait au moins 15 ans que je vous pratique. Est-ce que vraiment c'est des choses qu'il faut aller dire à la télévision en 1 minute 30 sur un plateau, tout en sachant que vous ne pourrez pas élaborer toute la complexité du débat?
C'est une erreur, je veux bien l'admettre, mais à culpa.
Franchement, parce que...
Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Je me repentis effectivement de ne pas avoir pris le temps. Mais il a fallu peut-être, moi je pense aussi, il y a un bien dans un mal. C'est vrai, il y a un mal, qui est le fait d'être intervenu comme ça rapidement et d'avoir lancé cette bombe, entre guillemets. Mais en même temps, il y a un bien, c'est que j'ai un peu voulu secouer le cocotier et de dire qu'arrêtons, j'en ai marre d'entendre à la télé, même, et c'est pour ça que j'ai même évoqué l'exemple d'une journaliste qui disait qu'elle avait choisi de porter un turban sur la tête, je ne citerai pas son nom, parce que c'était un cheminement spirituel. Moi, je ne comprends pas comment peut-on avoir cette idée de vouloir porter un turban sur la tête et appeler ça un cheminement, alors que Dieu nous demande...
Vous ne comprenez pas, c'est vous qui ne comprenez pas, vous voyez. Ça peut être son choix personnel.
Mais personne n'a dit le contraire, Philippe. Ce que je veux dire, c'est que moi qui a une expertise un peu plus profonde dans le message coranique, qui dit aux femmes de rabattre sur leur poitrine leur voile, de rabattre sur leur poitrine, et que cette femme-là n'a pas rabattu, n'a pas obéi à l'injonction divine, je ne peux pas lui donner raison puisqu'elle elle contredit l'injonction divine qui dit vous les femmes rabattez sur votre poitrine, c'est-à-dire cachez vos parures, vos atours. Et il dit ensuite dans le même verset wala yubdina zinatahunna, et qu'elles ne montrent pas leur beauté et leur parure afin d'attirer et d'attiser l'excitation chez les hommes. Voilà ce que il dit ensuite, à l'exception, il dit Allah, à l'exception de leur mari, de leur père, de leur frère, etc. Illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna, etc. Donc, la règle, si tu veux, Philippe, que ce que je disais tout à l'heure, la règle normative, c'est le fait d'être dans une démarche de réserve et de pudeur, et non pas de te mettre tel ou tel vêtement.
Bon, alors on va crever l'abcès et on prendra le temps qu'il faudra pour ça, parce que c'est une vraie question. Il y a énormément d'interrogations. Alors, on va prendre des appels dans un instant. 01 53 48 3000. On est en direct. Profitez-en. 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h. L'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors, l'imam Abdelali Mamoun revient sur ce qu'il a dit le 11 novembre dernier chez Yves Calvi sur Canal+. L'info en vrai. L'info de vrai, c'est ça, c'était quoi?
L'info en vrai.
L'info en vrai. Alors, j'aimerais qu'on termine rapidement, Imam Abdelali. Quel est le statut normatif du voile?
Il n'y en a pas, justement. Il n'y a pas de statut normatif, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Il y a, tout simplement, une règle de bienséance vestimentaire qui englobe tout le corps de la femme et qui lui demande d'être pudique et réservée et avoir des habits convenables et de ne pas attiser sexuellement le sexe opposé, les hommes. Voilà, yubdina zinatahunna. Voilà, et qu'elles n'exhibent pas leur parure et leur beauté. Et il n'y a rien en la matière sur la question. Mais, pardon, si vous me posez la question à moi maintenant sur le statut non pas normatif mais comportemental, j'invite les femmes à s'habiller décemment et même à porter un voile. Ma femme porte un voile, ma fille porte un voile, mes sœurs portent un voile, ma mère a toujours porté un voile, rahmatullahi alayha wa ala jami'a mutal muslimin, parce que je considère que c'est une règle de bienséance vestimentaire et non pas une prescription juridique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas derrière le voile islamique fard, sunna, mandoub, c'est ça que je veux dire. Mais que d'un point de vue akhlaq, comme pour l'histoire, par exemple, de la dette, qu'il est préférable de l'écrire, d'un certain nombre de règles comportementales, il est recommandé, il est conseillé de le faire et de manière à manifester, que la femme puisse manifester sa volonté aux autres d'être une femme réservée à son partenaire, à son mari.
Bien. Quand vous dites, de mon point de vue, votre mère et votre femme, elles vous ont pas demandé votre avis avant de porter le voile.
Tout à fait, mais si j'ai choisi déjà ma femme, c'est parce qu'elle était habillée décemment et qu'elle porte une robe et qu'elle est habillée, tu la connais bien, elle est habillée avec toute la tenue d'une femme réservée et fidèle et surtout aimante à son mari.
Alors, nous avons Fouzia qui est avec nous, tiens, par hasard.
Par hasard.
C'est Fouzia qui nous appelle, bienvenue sur Beurre FM, Fouzia.
Inch'Allah. Bonjour, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, moi, je voulais rebondir, en fait, par rapport à ce qui est dit par l'imam. Je le rejoins sur, sur tout ce qui concerne, effectivement, la tenue vestimentaire, par rapport au jalabihin, bibin, sur la
sourate. Jalabihin, voilà. Jilbab, le pluriel de jilbab.
Qui est donc cité dans la sourate 33, ayat 59. Mm-hmm, effectivement, c'est une robe complète. Allah ici vient nous parler, comme vous le dites, de la tenue globale de la femme musulmane.
Mm-hmm. Et pas du voile, et pas que du voile.
Oui, ne parle pas du voile, je suis d'accord. Par contre, moi j'ai une question. Dans le Coran, effectivement, le voile, il est cité, le voile. On ne peut pas dire qu'il n'est pas cité, mais si on le traduit au niveau étymologique, le voile n'est pas traduit ici, comme si on le traduit au niveau étymologique arabe. Après, je ne sais pas si je me trompe ou pas. Il me semble que le hijab, comme il est cité dans le Coran, sourate 17, ayat 45, on le traduit comme une barrière, quelle qu'elle soit, un rideau, un écran, un mur. Quand on prend différents Coran, c'est ainsi qu'il est traduit. Après, moi, j'aime pas trop les traductions, parce que, comme diraient certains, traduire, c'est trahir.
Alors, attendez, là, vous parlez du vocabulaire arabe qui est le mot hijab, c'est ça ?
Exactement.
Dans le verset où Dieu dit « وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ » Alors, traduction, que si vous posez, Dieu parle aux compagnons du prophète, que si vous voulez poser une question aux femmes du prophète, vous devez le faire de derrière un rideau.
Rideau, voilà.
Rien à voir avec le voile islamique. On est d'accord.
Je suis d'accord. Alors, par contre, moi, la question que je voulais vous poser, c'est par quoi on traduirait « khimar »
Alors, le khimar dans le Coran, dans Sourate Nour, Sourate la Lumière, il est évoqué au pluriel encore. وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّ خُمُورِهِنَّ, pluriel de khimar.
Oui.
Khimar, c'est le voile que la femme va utiliser pour couvrir ses cheveux.
Oui,
je le dis ouvertement, il n'y a pas de problème. Mais ce voile qui est utilisé pour couvrir les cheveux, Dieu, l'injonction divine, c'est quoi ? C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu demande ? Est-ce qu'il dit à ces femmes de couvrir avec leurs cheveux ou de couvrir avec leur poitrine?
La question, c'est pas celle-ci. Je suis d'accord avec vous dans ce que vous êtes en train de dire, tout à fait. C'est l'étymologie du mot. Khimar, qu'est-ce que ça veut dire en arabe?
Je viens de vous dire, c'est le tissu qui est utilisé pour mettre sur la tête. Parce que ça vient du mot khammar ar-ras.
À moi que ma grand-mère m'ait mal initiée, j'ai appris ça toute petite. Ma grand-mère, la Yahmal, la Youfé Aléha, m'a indiqué que le khimar venait du mot humour, qui veut dire couvrir. Elle m'expliquait, la Yahmal, pas forcément la tête. Elle m'avait pris l'exemple d'un cheval. Elle me dit, quand tu prends les purs sang arabes qui sont couverts d'une robe complètement noire, souvent, que certains avaient une tache au-dessus de la nuque, donc proche de la tête, blanche. Et on les appelait les humourin.
Madame. Là, vous vous trompez. Vous n'êtes pas dans le même mot. Vous êtes en train. Al-humourin na'am. Là, on parle de khumur avec un kha, pas avec un ha. Ça n'a rien à voir.
Le pluriel de khimar, monsieur.
Oui, mais là, le hadith du prophète qui parlait de taches blanches, c'est khumur. Al-khumur, khumurin na'am, ce sont ces bestiaux, ces montures qui ont des taches
khumur,
mais avec un ha, pas avec un kha. Donc on ne peut pas. Non, ça n'a rien à voir. Là, par contre, on sort du sujet. Parce que cet argument-là.
Pour moi, khimar, c'est ce qui vient recouvrir la tête. Peu
importe
quoi,
on est d'accord.
Mais c'est ce qui recouvre la tête.
Oui, tout à fait.
Par exemple, si on prend l'ivresse en arabe, khamar, exactement, là je suis d'accord avec vous.
Ça vient de khamar, effectivement.
Ça vient de ivresse, l'ivresse, c'est quoi ?
Qui couvre la tête, qui ouvre la raison. La raison, on est d'accord.
Tout à fait. Et qui coupe en fait la connexion avec le cœur, finalement.
On est d'accord.
Voilà. Donc pour moi, le khimar, qui est bien cité dans le Coran, invite les femmes à couvrir
la tête. Non. Dieu, il cite le khimar. Mais qu'est-ce qu'il dit de faire avec ce khimar ? Il nous demande de faire quoi avec ce khimar ? De couvrir la tête ou de couvrir la poitrine ? L'injonction divine, qu'est-ce qu'elle dit ?
Couvrir la poitrine, c'est encore autre chose. C'est la première injonction.
Où est-ce qu'elle est l'autre injonction qui parle de couvrir les cheveux ?
Il y a divergence, de toute façon.
Oui, je sais qu'il y a divergence.
Voilà.
Je parle quand même...
Quand bien même le Coran n'indiquerait pas le port du voile, la sunna l'indique. Et la parole du prophète, les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, portaient le foulard.
D'accord. Est-ce que le fait que des individus portent une tenue ou font quelque chose, ça veut dire que tout le monde doit le faire. Est-ce que c'est ça la, est-ce que
ça fait partie de la sunna, là on est dans la sunna.
Non, madame.
Je ne parle pas du voisin, je vous parle de la sunna.
Les vêtements que portaient les femmes à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que ce sont les mêmes vêtements que les gens portent aujourd'hui? Est-ce que ce sont les mêmes tissus? Est-ce que c'est pas les mêmes. Donc et pourtant
aujourd'hui, quand vous mettez une longue robe, à l'époque, elles avaient des longues robes qui étaient différentes d'aujourd'hui.
Non, mais la robe, moi je vous dis que concernant la porter une robe longue, c'est légiféré dans la sourate 33. La femme doit porter une robe longue. Le verset est clair. La femme doit porter une robe longue qui va d'accord, jusqu'au pied et doit cacher ses jambes.
Vous avez raison. Mais le voile, de toute façon, après, ça fait partie de la pudeur. Et Allah nous invite à être dans cette pudeur.
Mais ce qui m'énerve, ma sœur, vous parlez de pudeur, c'est qu'il y a des femmes aujourd'hui qui portent le voile sur la tête, mais qui, en matière de respect de l'injonction du verset, de la sourate 33, ils ne respectent pas. Ils sont avec des leggings, ils sont avec des pantalons serrés.
Oui.
Et avec un voile dans la tête pour justifier et légitimer leur tenue qui est indécente.
Mais vous prêchez une convaincue, Après, moi, je vous parle de la femme vraiment qui respecte la première injonction que vous indiquez, effectivement, qui invite les femmes à être habillées décemment. Mais je suis complètement d'accord avec vous. Moi, je préfère une femme qui est habillée, qui n'a pas de foulard sur la tête, mais qui est habillée de manière pudique, qui
on
ne va
d'accord.
pas attirer le regard.
Eh ben voilà, c'est exactement
plutôt,
ce que je dis.
Mais je suis d'accord. Mais il ne faut pas, ce que j'essaye de vous inviter à comprendre dans ma démarche, c'est que pour moi, il faut que ce soit complet. La tête doit être couverte parce que les cheveux de la femme sont quelque chose qui attire le regard.
D'accord.
Fouzia, si vous voulez bien, vous savez quoi, il y a énormément d'auditeurs. Moi,
j'aime bien la manière dont on débat.
On ne prend pas d'auditeurs.
S'il te plaît, une dernière chose que je voudrais dire à Fouzia, et après, je laisse la parole aux autres. Fouzia, est-ce que. Alors, tu m'as perdu, Philippe.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Qu'est-ce qu'elle a dit en dernier
Je disais que la parure de la femme, les cheveux, faisaient partie de la séduction, des atouts de séduction de la femme.
Oui, tout à fait. D'accord. Donc, à partir de là, est-ce que l'on peut dire que la femme qui porte qui ne porte pas un voile commet un péché?
Ah non, oulala, loin de moi cette pensée. Ah, pas du tout.
Aujourd'hui, on a des centaines de milliers
loin
de femmes
moi, attendez,
qui sont diplômées.
Loin de moi cette pensée,
je termine.
À partir du moment où nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit.
D'accord, non, mais on ne parle pas de juger. Là, on n'est pas en train de parler de jugement des individus, on parle d'un jugement par rapport à une règle. Et je voudrais poser une question. Voilà, c'est la question que je voulais vraiment vous poser, c'était celle-là.
La pudeur, elle est dans le comportement.
D'accord, attendez, je termine ma question. Est-ce que la poitrine d'une femme est une aura, est une partie intime?
Bien sûr.
Est-ce que son postérieur est une aura?
Mais évidemment.
On est d'accord. Quand les hommes regardent la télé, ou les femmes, quand on regarde la télé, vous voyez, c'est une femme où on voit apparaître les parties qu'on vient de citer.
Oui.
Est-ce que on zappe? Est-ce que vous zappez? Vous éteignez la télé?
Non,
mais je ne parlais pas de vous, madame. Je parlais des gens. Même des ulamas, même des savants, quand ils voient.
Je ne sais pas comment vivent les gens. Mais attendez.
Mais je vais vous dire ce qui se fait. Et tout le monde va me confirmer. Quand on regarde la télévision, qu'on voit une femme en petite tenue, on zappe en général par respect. D'abord, par respect de l'injonction divine et par respect des gens qui nous entourent. Mais, une question, quand on voit une journaliste ou une présentatrice à la télé avec les cheveux lâchés, est-ce que ces mêmes savants qui disent que le voile est obligatoire, est-ce qu'ils zappent?
Non,
ils zappent pas. Ils font bien la différence entre les cheveux et la poitrine. Et pourtant, les deux, ils disent que c'est aura, que c'est partie intime, qu'elle doit cacher.
Pourquoi ils zappent et là ils zappent pas? Là, vous partez dans une réflexion.
Non, mais c'est simplement pour contredire un peu la contradiction de cette volonté de vouloir imposer.
Là, dans ce que vous citez, on est juste dans la liberté de chacun de se voiler ou de ne pas se voiler. Ça ne veut pas
dire. Ah non, mais personne n'a dit le contraire.
Ça ne veut absolument pas dire que Dieu ne nous demande pas de nous voiler. Ça ne veut pas du tout dire ça.
Mais ça ne veut pas dire aussi que Dieu veut qu'on se voile. Où est-ce que c'est marqué?
Je suis désolée. Dieu nous demande de nous voiler.
Il dit couvrir les cheveux.
Par rapport à l'étymologie du mot, il est évident qu'Allah subhanahu nous demande et nous invite à nous voiler.
Allez,
et de toute façon, vous prenez n'importe quel exemple. Vous invitez une femme à sortir, voilée ou non voilée. J'ai été non voilée pendant des années et des années. Je voyais très bien le regard des hommes. Aujourd'hui, je sors voilée, le regard est tout autre.
Donc, si j'ai bien compris, si Dieu a obligé les femmes à couvrir ses cheveux, si elles ne respectent pas, elles commettent un péché.
Pas du tout.
Ah bon?
Pas du tout.
Alors, on a cité en introduction. Madame, non. Vous ne pouvez pas.
La pudeur.
Vous devez aller jusqu'au bout de votre raisonnement.
La pudeur fait partie du comportement. justement la pudeur et la chasteté.
On est d'accord.
Avec Allah, c'est parti d'un tout. C'est un tout. Si vous êtes voilé, mais que vous commettez des péchés, comment voulez-vous ne pas être puni?
Mais on ne parle pas de ça. C'est pas ça la question.
La chasteté fait partie de tout, monsieur. Dans le comportement, dans la parole.
On est d'accord.
Dans la façon, mais là aussi, on est d'accord. Façon c'est d'interagir, dans la façon d'interagir avec un homme, dans la façon d'interagir avec son entourage. C'est ça la chasteté.
Oui, on est d'accord. Mais c'est même le Coran qui le confirme, madame. Le Coran dit qu'elle ne doit pas taper les pieds pour attirer le regard, etc.
Tout à fait, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais c'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas non plus penser que la femme musulmane ne doit pas se couvrir les cheveux. D'ailleurs, pourquoi y a-t-il... Alors, je ne sais pas, peut-être que vous allez m'éclairer. Il y a un verset qui explique à un moment, justement, que les femmes âgées, quand elles arrivent à la ménopause, ne sont pas obligées de porter ce voile. Alors pourquoi à ce moment-là, on les invite à retirer le voile? C'est qu'à un moment, donc pendant leur jeunesse, elles étaient invitées à le porter.
Alors, reprenons le verset. Raira mutabarrijatin.
Si vous pouvez juste m'éclairer et me rappeler dans quelle sourate
c'est ce que je suis en train de faire. C'est dans le même verset de Sourate An-Nur, dans la continuité du verset de rabattre leur voile sur leur poitrine, il dit Wallati la yarjuna nikahan, falaysa alayhinna junahun an yada'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina. Elle ne doit pas se dévoiler afin de laisser apparaître leur beauté. Ghayra mutabarrijatin bizina. Donc, effectivement, dans ce verset-là, on peut comprendre qu'il s'agit ici de se dévoiler les cheveux, alors que le verset dit de dévoiler leur beauté. Ghayra mutabarrijatin bizina. Bizina. C'est pas moi qui l'invente, c'est le mot coranique. Dévoiler leur beauté. Finalement, en parlant aux vieilles.
Pas, personne... Vous êtes un homme, est-ce que pour vous, la chevelure d'une femme signifie beauté ou pas?
Oui.
Vous voyez bien que dans les critères sociaux dans lesquels on vit, la plupart, 80% des publicités, 80% du marketing au niveau beauté est ciblé sur la chevelure de la femme. Pourquoi autant investir sur ce critère de beauté si c'était pas un des critères de beauté
Bien, écoutez bien. Moi, globalement, ce que je peux vous dire par rapport à tout ça, c'est qu'il s'agit de règles non pas normatives, mais comportementales. On n'est pas dans le hukm fatwa. Vous-même, vous dites que ce n'est pas véritablement un fard, puisque le fard... Laissez-moi terminer ma phrase, ne me coupez pas la parole. Laissez-moi terminer jusqu'au bout. Mais madame, c'est pas comme ça qu'on débat. Non, oui, j'ai compris.
Ce que je ne vous laisse pas faire, c'est dire parler pour moi.
Je ne vous laisse pas parler, madame. Je n'ai jamais dit que j'ai parlé. Je dis simplement.
De toute façon, voilà. L'émission est terminée. Voilà.
On est d'accord.
Voilà, on n'a pas pris d'auditeur, on en a pris un parce que vous avez fait comme vous voulez, comme d'habitude, Imam Abdi.
Allez, c'est pas grave.
C'est dommage. C'est dommage tous les gens qui sont derrière. On va refaire la semaine prochaine. On vous redonnera la parole. Vous aurez plus l'occasion de pouvoir vous exprimer.
Inch'Allah.
Vous pouvez continuer la conversation également au numéro de téléphone de l'imam Abdel.
Alors 06 29 25 35 00. Je répète 06 29 25 35 00.
Et dans un instant, ce sont vos petites annonces sur Beurre FM.
Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.